Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Je vais abandonner ce ton un peu stupide pour rappeler, pour apprendre à ceux qui nous sont fidèles, à ceux qui nous rejoignent, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis maintenant bien plus d'un siècle. Ce jour, eh bien, nos pas vont nous mener, nos pas et nos notes vont nous mener quelque part en Italie, et oui, la bella Italia, pour célébrer en quelques 30 minutes, ce sera bien modeste par rapport à l'ampleur de sa carrière, l'un de nos acteurs fétiches, Marcello, tu nous manques, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, Marcello Mastroianni, qui, entre les années 50 et 90, avant une mort, hélas, prématurée, comme elles le sont toutes dans ces cas-là, eh bien, enchanta les écrans avec son charme, son intelligence, son flegme, sa beauté, son humour, etc. etc. On n'en finirait pas d'allonger les qualificatifs et les superlatifs de cet acteur italien, mais est-il besoin de le préciser, né le 28 septembre 1925 à Fontanalini, dans le Latium, où son père exerçait le métier de menuisier. Marcello Mastroianni, donc né en 1925, travaille dans les premières années de la guerre, puisqu'il a 15 ou 20 ans pendant la guerre 39-45. Il travaille donc les premières années de la guerre comme dessinateur industriel, puis il est envoyé en camp de prisonniers avant de regagner Venise. Bref, un début non pas de carrière, mais de vie extrêmement mouvementée. Et c'est finalement quelque part vers 1948 qu'il se fait remarquer aux côtés de Giulietta Masina, de laquelle nous allons bien sûr reparler dans quelques minutes, par un assistant du grand réalisateur, et il l'est déjà en 1948, Luchino Visconti. Et c'est sous ce dernier qu'il commence à travailler, non pas au cinéma, puisque Visconti a mené en parallèle, si l'on veut, une carrière très brillante, tout à la fois de cinéaste, mais aussi de metteur en scène de théâtre et d'opéra. Donc c'est au théâtre qu'il commence à travailler sous la direction du susdit Visconti, dans des pièces, ma foi, qui sont plutôt de relevé et intellectuel. Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, Mort d'un commis voyageur de Miller, Oncle Vania, Les Trois Sœurs de Tchekhov et La Locandiera de Goldoni. C'est en 1945, donc juste un tout petit peu avant, qu'il avait fait ses débuts au cinéma dans un film de Riccardo Freda, qui, à mon souvenir, était une des énièmes adaptations des Misérables, L'Évadé du bagne, ça s'appelait I Miserabili, oui, c'est bien ça. Ensuite, eh bien, dans les années 50, il va tourner 3-4 films par an sans rencontrer vraiment un très très grand succès, aussi étonnant que cela paraisse, avant d'être découvert en 1954 dans un film de Carlo Lizzani, Chronique des pauvres amants, qui est un peu dans la veine néo-réaliste, mais pas trop quand même. Ensuite, eh bien, d'autres films plus ou moins oubliables, signés de réalisateurs solides, mais qui n'ont pas la stature de ceux avec lesquels Marcello finira par percer, puisqu'on voit Blazzetti, on voit Camerini, on voit Luciano Emer, mais on ne va pas encore poindre Visconti, puisqu'en fait, il faut attendre 1957 pour que celui qui a fait débuter Marcello en tant qu'acteur au théâtre, eh bien, l'engage au cinéma dans une adaptation subtile et peu connue d'une nouvelle, à ma souvenance, de Dostoïevski, Les Nuits Blanches, Les Notti Bianche, aux côtés de Maria Schell, là encore, dans mon souvenir. Bref, beaucoup de films, pas beaucoup de musique, c'est pourquoi on va faire un tout petit saut dans le temps et on va écouter quelque chose dont je vous parlerai juste après. Comme ça, nous serons raccro et vous êtes bien dans Divergence FM, ou plutôt dans 24 notes secondes et sur Divergence FM pour écouter ça. Thank you. On ne peut pas ne pas reconnaître, si l'on est un fidèle de 24 notes secondes, la patte subtile, nostalgique, élégante, ironique de Nino Rota. Et si l'on est un fanatique de 24 notes secondes, on ne peut pas associer Nino Rota à quelqu'un d'autre qu'à Federico Fellini. Et vous venez d'entendre de fait un extrait de la bande originale de l'un des nombreux films que ces deux-là ont signé ensemble, La Dolce Vita, La Douceur de Vivre, mais le film est surtout connu sous son titre original, La Dolce Vita, un film de Fellini tourné en 1959 avec Marcello dans le rôle principal. Un film qui connut un succès de scandale, mais en tout cas un succès à la fois critique et public aussi, d'autant plus étonnant qu'il fait quand même près de 3 heures. En fait, il fait 3 heures. 3 heures pendant lesquelles on peut voir Marcello Mastroianni dans le rôle de Marcello Rubini, un chroniqueur mondain dans un journal spécialisé dans les indiscrétions. Eh bien, qui fréquente la faune pas vraiment très reluisante de la haute société ou soi-disant-elle romaine, qui accueille des actrices américaines ou soi-disant-elles comme bien sûr Anita Ekberg, à savoir Sylvia, tout simplement dans le film, avec une des scènes emblématiques de toute l'histoire du cinéma mondial. S'il y avait 10 scènes à retenir dans le cinéma mondial, eh bien, il y aurait évidemment celle du bain, appelons ça comme ça, d'Anita Ekberg dans la fontaine de Trévi, pauvre fontaine, pauvre Trévi, pauvres habitants autour de la fontaine qui ont à faire face tous les jours et même jour et nuit à un flot de touristes venus là pour essayer de capter quelques instants ce charme absolument inoubliable et toujours d'actualité qui fit de la Dolce Vita et bien tout à la fois un des grands chefs-d'œuvre de Federico Fellini et aussi l'occasion pour Marcello Mastroianni, après presque une dizaine d'années d'une carrière, et bien ma foi, en dents de scie, d'accéder donc à la célébrité total, il faut dire, et j'avais dit que j'anticipais quelque peu en vous passant enfin un peu de musique dans 24 notes secondes, que dès 1958, le succès là encore colossal du Pigeon de Mario Monicelli, dans lequel Marcello Mastroianni tenait un des rôles principaux, mais c'était plutôt un film choral, eh bien avait déjà assuré le succès de cet acteur, mais il avait choisi, et donc avec beaucoup de pertinence, de ne pas se cantonner à ses rôles comiques, burlesques, parfois un peu forcés. Et ensuite, donc, entre 1959 et 1960, date de la Dolce Vita. Il avait tourné quelques films un peu en retrait, et notamment Le Bel Antonio de Mauro Bolognini, où il jouait tout simplement le rôle d'un impuissant, quelque chose qu'on ne fait pas dans l'Italie de ce jour, et encore moins, je pense, dans l'Italie des années 60. En tout cas, eh bien, c'était un coup de maître, puisque grâce à la douceur de vivre, à la Dolce Vita, dans les années qui suivirent, Marcello Mastroianni put enchaîner des rôles les plus divers et les plus variés, puisque à la fin de sa carrière, il avait figuré dans plus d'une centaine de films, excusez du peu, dans plus d'une centaine de films. Alors nous allons picorer très rapidement dans ces films et on va s'écouter à nouveau. Allez, un petit extrait d'une bande originale de Federico Fellini. Alors si la Dolce Vita avait montré que entre ces deux-là, entre Marcello et Fellini, eh bien il y avait une connivence tout à fait parfaite, eh bien il en fut encore plus, ce fut encore plus vrai dans le cadre du film tourné en 1963 par les deux mêmes. 8,5, pourquoi 8,5? Mais tout simplement parce qu'il s'agit du 8e film et demi. Il avait tourné un sketch dans un film dont le nom m'échappe. Honte à moi, de Fellini, un film qui raconte l'histoire d'un homme qui ne parvient pas à tourner un film. Ça, c'est un gimmick relativement répandu dans le roman, dans le cinéma, sans doute, que sais-je, ailleurs. Mais, il fallait tout le talent de Federico Fellini, de ses scénaristes et des femmes, bien sûr, j'y reviens, pour faire de ce film absent un film présent. Et c'était évidemment Marcello Mastroianni et qui d'autre qui pouvait interpréter le rôle du cinéaste en panne d'inspiration. Vous voyez qui je veux dire, qui ne s'appelait quand même pas Federico, qui s'appelait Guido et qui, eh bien, égrenait là encore des femmes toutes plus charmantes les unes que les autres, d'autres, certaines dont on te souvient encore, Anouk Aimée, Claudia Cardinale, bien sûr, et d'autres qui sont réservées aux happy few, voire parfois aux très pervers, comme Sandra Milo ou la délicate Barbara Steele, que les amateurs de films d'horreur italiens des années 60 connaissent bien. Bref, c'était un petit régal et on pouvait y écouter là encore une musique de Nino Rota, une musique là encore bien connue. Je vous la laisse découvrir tout simplement dans 24 notes secondes. We'll be right back. Je m'en serais voulu d'interrompre ce petit flutio, même si ça grésillait pas mal. Un extrait, en fait, le grande finale de la bande originale de 8,5 de Federico Fellini, une musique de Nino Rota qui, en l'espèce, accompagnait Guido, le héros de ce film, à la fin de son parcours, celui où, apaisé, il retrouve ses compagnons et surtout ses compagnes de route dans une joyeuse farandole au centre de laquelle un enfant, tout de blanc vêtu, joue du pipeau. Et cet enfant, c'est lui, tout simplement. Fellini dans la grâce, Fellini dans l'intelligence, Fellini dans le fantastique, Fellini dans la femme, si je puis dire, bien sûr. Et Marcello Mastroianni en connivence absolument totale. Sinon, avec son Pygmalion, on l'a vu, s'il en fallait un, ce serait plutôt Visconti qui aurait tenu ce rôle dans la carrière de Marcello. Mais en tout cas, certainement avec l'un des réalisateurs avec lequel il eut le plus d'affinité et qui lui permit, là encore, un grand succès, alors sans doute peut-être plus intellectuel et critique que public pour un film quand même relativement difficile, mais Fellini en fera ensuite, mais sans Marcello, de plus austère, en tout cas de plus complexe encore. Marcello, donc, auquel nous consacrons cette émission de 24 notes secondes, qui ne nous permet bien sûr que d'égrener musicalement que quelques films dans la centaine qu'il a tourné. Alors là encore, je ne vais pas vous accabler, mais j'espère rappeler quelques souvenirs en évoquant le mariage à l'italienne de Vittorio De Sica, tourné en 1964, en évoquant aussi L'étranger, une adaptation donc d'Albert Camus, ma foi peut-être pas forcément ni la meilleure interprétation de Marcello, ni le meilleur film de Visconti, puisqu'en fait il s'agissait bien d'un film de Visconti. On peut aussi évoquer le drame de la jalousie absolument hilarant d'Ettore Scola, tourné en 1970. On peut aussi évoquer la collaboration de Marcello avec d'autres réalisateurs qu'italiens, puisque dans les années 70 et surtout dans les années 80, eh bien, il commença à tourner avec des réalisateurs aussi divers que Nikita Mikhalkov, puisque avec le dernier, il tourna Les Yeux Noirs, qui lui valurent d'ailleurs un grand prix d'interprétation au Festival de Cannes. On le vit aussi dans L'apiculteur de Théo Angelopoulos. On le vit avec Robert Altman, Agnès Varda, Bertrand Blier, Manuel de Oliveira. Bref, on le vit un peu partout et on le vit tellement qu'il est donc, je l'ai dit, bien difficile de choisir, de picorer. Alors on va picorer dans ma discographie, je dirais, plus que dans la carrière de Fellini, de Mastroianni, pardonnez-moi, pour évoquer un film un peu annexe, mais en même temps assez significatif, tourné par Ettore Scola, qu'on vient d'évoquer avec Drame de la jalousie en 1974, un film dont les principaux interprètes n'étaient pas Marcello Mastroianni, mais Nino Manfredi, Vittorio Gassman et la sublimissime Stefania Sandrelli, qui évoquait l'histoire de trois camarades, de trois frères d'armes de la résistance à l'occupant à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui affrontent donc les années 50-60 de manière diverse. Certains comme Nino Manfredi en gardant leurs idéaux, d'autres comme Vittorio Gassman en plongeant dans les compromissions avec Stefania Sandrelli, bien évidemment comme toujours dans le mélodrame à l'italienne partagé entre plusieurs hommes. Et dans ce film, eh bien, on revoit tout simplement Federico Fellini et Marcello Mastroianni en train de tourner la fameuse scène de la Dolce Vita que j'ai évoquée tout à l'heure, ce qui est pour Ettore Scola une occasion peut-être un peu amère de rappeler que aussi bien Fellini, mais en tout cas plus De Sica, Vittorio De Sica, déjà évoqué aussi, et qui lui aussi fait une apparition dans ce film d'Ettore Scola, une occasion un peu amère d'évoquer, eh bien, le parcours pas forcément à l'aune des espoirs de la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors à la fois des espoirs historiques, politiques, mais aussi des espoirs esthétiques de la vague du néoréalisme dont Vittorio De Sica fut un des héros à UT, je crois, avant de devenir, eh bien, un cinéaste plutôt commercial. Bref, une histoire tout en nostalgie, tout en élégance, certainement un des grands chefs-d'œuvre d'Ettore Scola, dans lequel donc on voit Marcello dans un rôle relativement curieux, c'est-à-dire lui-même, et c'était peut-être ce qu'il faisait de mieux. Et puis, bien sûr, une musique signée d'Armando Trovajoli, dont je vous propose un délicat, petit, extrait, dans 24 notes, seconde. Thank you. Voilà, la petite musique là encore bien nostalgique, comme celle de Nino Rota, d'Armando Trovajoli, pour un extrait de la bande originale de Nous nous sommes tant aimés. Allez, je vous le fais quand même. C'eravamo tanto amati, de Ettore Scola, un film absolument magnifique. Alors, je relisais ma petite fiche et j'avais oublié, j'ai évoqué De Sica et Fellini, qui sont des sortes de balises dans le film, balises chronologiques, esthétiques, intellectuelles, politiques. Il y en avait une troisième que nous pouvions difficilement évoquer musicalement, d'ailleurs celle d'Antonioni, qui, Vittorio De Sica, Fellini, Antonioni, je récapitule, j'y arrive, marqué pour Ettore Scola, eh bien, le parcours cinématographique de l'Italie de l'après-guerre, parcours cinématographique, eh bien, en l'occurrence, c'est celui de Marcello Mastroianni que nous évoquons, que nous évoquions. Alors, il a fallu faire un tri parmi la centaine de films interprétés par le SUSDI. Il y en a quand même quelques-uns que j'ai oubliés et ce serait dommage de ne pas les citer avant que de conclure, ou tout au moins de s'acheminer vers la conclusion. Le délicieux, c'est pas le mot, l'incontournable et le méchant touche pas à la femme blanche de Marco Ferreri, tourné en 1973 dans ce qui deviendra plus tard cette horreur du Forum des Halles avec Piccoli, il me semble, un film... une sorte de western parodique absolument terrifiant. On peut aussi évoquer, alors là je m'en veux de ne pas l'avoir fait dès avant d'écouter un extrait de cette bande originale, Une journée particulière d'Ettore Scola, toujours en 1977, où l'on voyait Sophia Loren, une femme au foyer pulpeuse, mais un peu fanée, Sophia Loren, pardon, et Marcello Mastroianni, intellectuel, homosexuel, et bien esquissé, une romance bien improbable, le jour de la visite d'Hitler à Rome, où donc, et bien, seuls les réprouvés et les femmes au foyer peuvent ne pas se trouver dans la célébration d'une amitié ô combien virile entre Hitler et, comment s'appelait-il déjà, Mussolini, bien sûr, Une journée particulière, un film tourné en sépia, vraiment une interprétation absolument magnifique du divin Marcello, le divin Marcello qui a eu une vie sentimentale, elle aussi bien agitée, mais j'ai découvert dans mes petites fiches qui ne manquent jamais qu'il avait épousé en 1948 une actrice de théâtre nommée Flora Carabella, dont je n'ai jamais entendu parler, et qu'il n'en avait jamais divorcé. C'est quand même assez étonnant. Mais enfin, il n'est pas besoin de rappeler, hein, Catherine, que Marcello fut un séducteur. Il fut le Latin lover par excellence et on le regrette. Il nous manque, il n'y en a plus. C'est le 19 décembre 1996 qu'il nous a quittés. Mort à Paris d'un cancer du pancréas, l'un des pires. Bref, on me fait signe qu'il est temps de passer à la musique et on a bien raison. On va s'écouter un dernier extrait d'un film d'Ettore Scola à nouveau dans lequel Marcello interprétait le rôle de Casanova. Qui d'autre pouvait-il interpréter ? Ça s'appelait La Nuit de Varennes, c'était très bien. Bref, on aimait tout. Ciao Marcello. Thank you. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye bye.